En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission En Séance, votre rendez-vous avec l'Académie des sciences morales et politiques. Tous les jours, vous le savez, vous pouvez réentendre, réécouter les principales séances présentées en public tous les lundis à 15h. C'est la grande tradition de l'Académie des sciences morales et politiques. Un membre de l'Institut ou une personnalité extérieure à l'Institut vient présenter une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Cette année, un thème bien précis, défini par le président de l'Académie en cette année 2005, l'historien Jean Tullard, le thème « Faut-il faire confiance aux historiens ?». Et le lundi 4 juillet dernier, c'est Jean Vitteau qui était l'invité de l'Académie, docteur en médecine Jean Vitteau, venu prononcer cette communication intitulée « Peut-on écrire l'histoire de la gastronomie ?». Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Peut-on écrire l'histoire de la gastronomie ? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la gastronomie ? La gastronomie, selon les dictionnaires modernes, c'est l'art de la bonne chère ou l'art de bien manger, et par l'extension, l'art de préparer les bons repas, la haute cuisine. La première mention est peut-être celle d'un traité culinaire perdu du grec Archestratos, au IVe siècle, ça doit vous rappeler quelque chose, dont il ne reste que des témoignages indirects. Mais un mot, c'est parfois un homme, une œuvre. Et l'inventeur du mot « gastronomie », c'est vraiment Brillat Savarin dans « La physiologie du goût » en 1823. Il nous dit « La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. » Tout un programme. Brillat Savarin a inclus dans la gastronomie tout ce qui concerne les aliments, leur obtention, leur préparation, et dit que la gastronomie tient à l'histoire naturelle, à la physique, à la chimie, au commerce et à l'économie politique, sans oublier, pourrions-nous rajouter, à la médecine et à la sociologie. Mais l'évolution du mot dans le sens moderne a conduit progressivement à séparer l'alimentation de la gastronomie, même si ces deux domaines se recoupent assez largement. L'alimentation est une nécessité, la gastronomie est une quête, une recherche de la qualité, une passion, un plaisir, une connaissance et une culture. Manger est un acte commun à l'homme et à tout animal, mais manger en tant que gastronome est un acte culturel. La gastronomie est mémoire des plats, des saveurs, une éducation du goût, une recherche constante. Mais elle est également dépendante de son époque, des approvisionnements, de la société. La diffusion des produits, substrat de la gastronomie, l'évolution des techniques de cuisine, le rôle du commerce, l'importance du cadre et des arts de la table, les modalités du service sont aussi des composantes de la gastronomie, domaine immense. Dans ces sens, l'histoire de la gastronomie, c'est une part importante de l'histoire de l'homme, et l'on peut considérer qu'elle a commencé le jour où Homo erectus a découvert le feu et la cuisson des aliments, comme l'a explicité Claude Lévi-Strauss dans « Le cru et le cuit ». Peut-on écrire l'histoire de la gastronomie ? Nous allons considérer chacune de ces composantes que nous avons essayé de rassembler dans ces définitions de la gastronomie et déterminer ce qui est connu et ce qui est écrit et ce qui ne peut être directement apprécié. Histoire naturelle et gastronomie. L'homme a développé son alimentation en utilisant toutes les ressources disponibles de la nature. Par la chasse et la cueillette qui ont été en grande partie remplacées par l'élevage et l'agriculture. Mais rien n'est immuable, ni l'homme, ni la nature en constante évolution, ni leurs interactions mutuelles. Ainsi, une part importante de notre alimentation résulte des conquêtes des Amériques par les conquistadors, menées par Cortés et Pizarro. Ainsi sont venues dans notre assiette les tomates, le maïs, l'avocat, le chocolat, la pomme de terre, les haricots et de nombreuses variétés de courges, ainsi que le dindon. Mais l'aubergine nous est venue d'Inde et les crônes du Japon en 1892. Ainsi est-il savoureux d'entendre les défenseurs du cassoulet de Castelnaudary dire que la recette du cassoulet remonte aux Romains, alors que les haricots ne sont apparus qu'au XVIe siècle, et que les volailles à l'origine du confit sont engraissées au maïs, lui aussi américain. Peut-être le cassoulet était-il fait autrefois avec des fèves, mais les reconstitutions modernes sont peu convaincantes. Il est aussi intéressant de constater qu'à chaque foyer majeur de culture mondiale correspond une céréale dominante. Le riz pour la Chine, le blé pour le bassin méditerranéen, le maïs pour la Mésoamérique. Et cela alors même que nous ne savons pas toujours quelles étaient les plantes sauvages qui ont été sélectionnées et hybridées pour arriver à la céréale cultivée base de notre alimentation. L'ingéniosité de l'homme, agriculteur et jardinier, dont le modèle est Lacquintini, directeur du potager de Louis XIV, a permis d'obtenir des milliers de variétés qui ont concouru à la diversité de nos produits. Substrat indispensable de la gastronomie. Tels les cépages de la vigne, plusieurs centaines dont le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, la Syrah, originaires de France qui ont envahi le monde et concurrencent désormais nos productions viticoles. Les centaines de variétés de pommiers, de pêchers, de tous les arbres et arbustes fruitiers et de plantes potagères. Cette immense variété était à l'origine de multiples variations locales et de goûts différents, mais l'industrialisation des moyens de reproduction des plantes, la standardisation des produits liés à leur distribution et au goût du plus grand nombre, la préférence de l'aspect au goût, ainsi que sans doute l'arrivée des organismes génétiquement modifiés, menace cette diversité naturelle si propice au bien-manger et à la gastronomie. De même, l'élevage a subi des mutations considérables par la sélection des bovins, ovins et autres poulets, par leur alimentation de plus en plus artificielle qui a pu conduire à des crises majeures, comme l'encéphalite spongiforme bovine, dite maladie de la vache folle. Mais a-t-on eu idée de transformer les herbivores en carnivores par le biais de farines animales ? La variété des produits. De l'histoire naturelle, on passe tout naturellement au produit. Le produit est le substrat de la gastronomie et de l'alimentation. Tout se complique alors, car les produits changent avec le temps et les civilisations. Il y a une interactivité réciproque entre le goût du temps et les modes de production, les méthodes de préparation, la façon de manger et les produits. Tout cela relève à la fois de la gastronomie, mais aussi de la sociologie et de la civilisation en général. Ainsi, le vin a subi des mutations considérables depuis l'Antiquité. Le vin antique, fermenté dans de grandes jarres enterrées, les dolium, conservé par exemple dans l'exploitation viticole de Boscoreale, retrouvé sous les centres du Vésuve, correspondait probablement à un vin de voile comme le vin jaune d'Arbois actuellement. Ce qui explique probablement sa longue conservation malgré les imperfections de la vinification antique. Surtout, ce vin, transporté dans des amphores, était concentré par chauffage pour en réduire le coût du transport. Et ensuite, lors de la consommation, dilué dans de grands vases appelés cratères, mélangés à des aromates et à de l'eau, parfois de mer, comme dans les vins de Cos et de Falerne, célébrés par Suétone. Le goût du vin moderne doit beaucoup aux Gaulois qui ont inventé le tonneau et donc l'interaction entre le bois et le vin. Puis au bouchon de Liège, inventé par Dom Pérignon. Quel pouvait être le goût du vin au Moyen-Âge, produit sur les collines de Chaillot ou de Montmartre, surtout lors des hivers humides et froids du petit âge glaciaire? Mais ce vin était la source de typhoïdes et d'autres... permettait d'éviter le recours à l'eau, car l'eau des villes était dangereuse et mortelle, source de typhoïdes et d'autres germes pathogènes dangereux. Quel était aussi le goût du vin de Chambertin, que Napoléon buvait jusque pendant la retraite de Russie, transporté dans les recoins de sa malcabine et coupé d'eau, ou celui de Constanza, le plus célèbre vin moelleux jusqu'à l'aube du XXe siècle, apporté du Cap à Sainte-Hélène pour les Anglais comme boisson de prestige pour Napoléon, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il était coupé ou non d'arsenic. Nous ne savons même pas avec certitude le goût du vin d'avant le phylloxéra, le temps ayant fait son œuvre et seule la traduction imparfaite du goût dans les textes et du vin dans les bouteilles anciennes, peut nous en donner une hypothétique appréciation. Il en est du même du pain, base de l'alimentation, jusqu'au temps moderne. Le blé s'est profondément modifié par les sélections lentement effectuées par l'homme, et un des seuls témoins des céréales anciennes est l'épeautre du pays de Sceaux. Même la cuisson du pain, avec la raréfaction des fours à pain, au feu de bois et l'industrialisation croissante des moyens de panification, a modifié le goût de ce produit de base de notre alimentation. Ainsi, la prophétie de la Sibylle de Cume est née. Tu te fixeras là où tu auras mangé les tables et considéré par certains comme la plus ancienne mention de la pâte des pizzas. Le sucre nous apparaît être un composant essentiel des desserts, mais son apparition est moderne. Les temps anciens ne connaissaient que le miel. La séparation entre le sulé et le salé, assez impérative dans la cuisine du XIXe siècle, où l'on utilisait guère le sucre que dans les plats salés que pour contrecarrer l'acidité des petits pois, n'était pas habituelle ni dans la cuisine romaine ni médiévale, où le sucré et le salé étaient mélangés, un peu comme dans la cuisine chinoise où les tonalités aigres-douces sont souvent dominantes. L'évolution du goût. L'évolution du goût est un problème crucial pour l'histoire de la gastronomie. Le goût, un des cinq organes des sens, est d'une connaissance scientifique encore très imparfaite et d'une grande complexité. Il interagit avec l'olfaction. Il ne peut être ni enregistré ni être reproduit, contrairement aux autres sens comme la vue et l'ouïe. Une histoire de la peinture ou de la musique repose sur des éléments concrets que l'on peut comparer et reproduire. Mais le goût, divisé entre ces quatre composantes essentielles, acide, amer, sucré et salé, ne peut être ni reproduit ni analysé. Il est individuel, chacun ayant ses préférences, et également collectif, goût d'un peuple, d'une époque, reflet d'une civilisation. Il fait appel à l'expérience et à la mémoire et s'associe à des stimuli extrasensoriels, comme le cadre, l'ambiance d'un repas, la conversation des convives, comme la Madeleine de Proust lui rappelle son enfance. Le goût est avant tout individuel, chacun a son catalogue de goûts et de saveurs qui évolue de façon complexe dans le temps et qui est difficilement transmissible d'un individu à l'autre, d'une génération à l'autre, d'un groupe à l'autre. Mais il faut remarquer que la gastronomie est conviviale, plus collective qu'individuelle. C'est un partage depuis les festins d'Apicius jusqu'au souper de Grimaud la Reynière, puis aux confréries gastronomiques actuelles telles le Club des Cent, fondé par Louis Forest en 1912, ou l'Académie des gastronomes créée par Kurnonski, le prince des gastronomes, en 1928. De même, les mots pour exprimer les goûts et les saveurs varient d'une époque à l'autre et ne sont pas toujours compris. Les bases des comparaisons sont en fonction des mots utilisés et du non-dit. Ce qui paraissait évident aux auteurs d'une époque ne l'est pas forcément pour nous. Ainsi, le langage du vin a beaucoup changé avec le temps. Au XIXe siècle, le vin avait du corps, de la cuisse, ou moins flatteur, de la jambe. Les sommeliers modernes parlent d'arômes de vanille, de violette, entre autres. Mais certains disent que le vin est simplement bon ou qu'on aurait dû le boire plus tôt ou plus tard. Le goût du vin a évolué des temps anciens où l'on buvait le vin de l'année en raison de sa mauvaise conservation, à l'époque où l'on n'aimait que les vins vieux, enfin à l'époque moderne où les impératifs financiers font revenir au vin jeune, ce qui d'ailleurs entraîne une modification profonde des pratiques de vinification. Le goût est également très fluctuant suivant l'époque. Nous avons du mal à envisager le goût des Romains pour les vulves et les tétines de truie, mais nous mangeons bien de la tête de veau qui était inconnue au Moyen-Âge. Pour prendre un exemple où le produit n'a pas évolué car sauvage, le poisson, les goûts ont beaucoup varié. À Rome, Apicius était prêt à payer 1000 sesterces pour un mulet exceptionnel et la murène était très appréciée. De nos jours, ces poissons, appelés mulets ou muges ou congres, sont beaucoup moins recherchés. Par contre, le bar ou loup est monté au pinacle par les cuisiniers modernes. De même, au Moyen-Âge, le paon, le héron et le cygne étaient des gibiers princiers, peut-être plus pour leur présentation théâtrale à table que pour leur goût. Pour ma part, j'ai mangé du cygne et j'avoue ne pas avoir envie de renouveler l'expérience. Il est des époques où l'évolution des goûts a fait de l'objet de controverses publiques dignes de la bataille d'Hernani. Une véritable querelle des anciens et des modernes s'est déroulée au XVIIe siècle, à laquelle Boileau a pris part, et de nos jours, la nouvelle cuisine a voulu révolutionner la gastronomie par ses mélanges de goûts, son désir de toiletter la cuisine traditionnelle bourgeoise et des noces et banquets, de supprimer avec raison les sauces et les roux, et de mettre avec peut-être moins de raison des portions réduites dans des assiettes gigantesques. De même, la consistance des plats a beaucoup varié. La mâche des plats, c'est-à-dire le contact gustatif de la matière des mets avec le palais et fonction de l'époque. Les Romains qui mangeaient dans leur triclinum en position semi-allongée préféraient manger haché ou mixé, ce qui excluait l'usage de la découpe individuelle des viandes. De même, les aliments liquides comme les consommés, les bouillons et les soupes, dont les déclinaisons se comptent par centaines chez Escoffier, ont quasiment disparu des tables modernes. La cuisson a beaucoup varié dans le temps. Le goût des viandes saignantes et des poissons peu cuits, roses à l'arête, est une caractéristique de la fin du XXe siècle, alors qu'auparavant, la succession du bouilli et du rôti faisait appel à des cuissons plus prolongées. Le goût d'une époque est trop difficile à apprécier car les témoins ont disparu. L'écriture en est une traduction très aléatoire de l'expérience du goût. Gastronomie et technique culinaire. L'évolution de la gastronomie, c'est aussi les techniques d'après des aliments. La cuisine et les arts culinaires. L'histoire de la cuisine, c'est d'abord les arts du feu, des instruments de cuisson, du foyer aux cuisinières à bois, à charbon ou à gaz, puis à l'électricité et à ses multiples variantes, du four à chaleur tournante à l'induction. L'étude de la simple cuisson de l'œuf mollet fait appel à des notions de physique complexes. La composition du jaune et du blanc de l'œuf expliquant leur comportement différent à la chaleur. De même, la physique de l'émulsion appelée mayonnaise, rapportée de Fort Mahon au Baléares par le maréchal de Richelieu, d'où son nom de mahonnaise puis mayonnaise, est très complexe physiquement, même si l'on sait que certaines huiles, comme l'huile de pépins de raisin, peuvent en être un des secrets. Les instruments de cuisine anciens sont bien connus par les témoins archéologiques et picturaux, notamment. Leur mode d'utilisation l'est d'autant moins que jusqu'à l'aube de ce siècle, la cuisine, sauf en milieu populaire où il ne reste que peu de traces écrites, était le fait de professionnels, chefs, officiers de bouche puis cuisinières. Le fait que tout un chacun fasse désormais la cuisine et ce pic de gastronomie est une évolutivité sociologique récente. La lecture des livres anciens de cuisine est parlante à ce titre. Toutes les techniques de base de l'époque sont considérées comme connues et donc non décrites. La lecture des traités d'Apicius, du viandier de Taillevent, qui est plus un catalogue qu'un livre de cuisine, ou même du ménage de la ville et des champs ou des traités de Menon au XVIIIe siècle, sont tout à fait élusifs sur ces techniques culinaires. La reconstitution d'une recette ancienne pour en retrouver le goût est donc une aventure hasardeuse, où ni les produits, ni les techniques culinaires, qu'il s'agisse des temps de cuisson, des températures ou des modes de préparation, ne sont précisément mentionnés. La part d'interprétation du cuisinier moderne est foncièrement importante et témoigne autant de notre époque que celle de la recette originale. Les conditions du service déterminent aussi l'histoire de la gastronomie. Le service à la française, où de nombreux plats étaient présentés en même temps sur la table, puis le service à la russe ou service à l'assiette au tournant du XIXe siècle, a modifié profondément la gastronomie. On est passé des plats multiples en gelée, froid ou tiède à des plats servis à bonne température et à des règles prévues dans le découlement et l'équilibre des menus. L'apparition de la fourchette sous Henri III et de l'assiette en remplacement des écuelles sous François Ier en France, a modifié la table, ainsi que le service du vin, bien différent si l'on est servi ou si l'on a un verre à sa disposition. De là sont venus des éléments qui peuvent paraître secondaires mais néanmoins importants. Les arts de la table, le cristal, la porcelaine, les nappes, les décorations florales sont des éléments importants de la gastronomie en veillant à ne pas mélanger les genres. On n'attend pas les mêmes services d'un restaurant étoilé que d'un bistrot. Le cadre a son importance, mais encore plus les convives, comme soulignait Bria Savarin. Là encore, la part culturelle est primordiale dans l'histoire de la gastronomie. L'offre de services de la gastronomie varie avec le temps. Jusqu'à la Révolution, la gastronomie était l'affaire de professionnels qui étaient employés par les grands et les bourgeois. Il n'y avait pas de restaurant, mais seulement des auberges où l'on se restaurait. Pas de restaurant où l'on pouvait aller dîner le soir en compagnie. Le premier restaurant a été le café de Chartres au Palais Royal, dont le décor existe encore au Grand Véfour. La Révolution a mis au chômage les cuisiniers des maisons nobles, qui ont créé ensuite les premiers restaurants après Thermidor, comme l'a mis en exergue Jean Tullard dans son ouvrage sur les Thermidoriens. Cette tradition a duré jusqu'à nos jours en passant par la cuisine des palaces célébrés par Escoffier et la médiatisation des grands chefs à notre époque, au point même que l'on peut manger désormais plus souvent à l'extérieur que chez soi. La gastronomie est un élément important de la sociologie. Son histoire est intimement liée à celle des peuples, des individus et des coutumes d'une époque. Le goût de la gastronomie a même influencé la religion. L'importance de la gastronomie se retrouve dans les textes bibliques, à de nombreuses reprises, de l'Ancien Testament où Ésaü échange avec Jacob son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, au Nouveau Testament où Jésus change l'eau en vin aux noces de Cana, miracle des plus gastronomiques. Les pratiques alimentaires ont certes été condamnées par l'Église qui a classé la gourmandise comme péché capital, mais le carême a été sans cesse contrecarré par des restrictions à visée gastronomique. Par exemple, tous les oiseaux d'eau se nourrissant de poissons ont été considérés comme maigres. Grimaud de la Reynière dit en 1805 que l'intérêt pour les sarcelles affaiblit du fait de la disparition des ordres religieux. Sous l'influence de prélats épicuriens, l'Espagne a été dispensée de carême. Au Moyen-Âge, la gastronomie a trouvé refuge, ainsi que la culture et les textes anciens dans les monastères. Ce sont ainsi des moines byzantins qui ont inventé la galette des rois. A contrario, le reflux des protestants sur le carême a été à l'origine des œufs à la huguenote, où le mélange de jus de viande aux œufs dans un récipient spécial a été un moyen de résistance identitaire. Politique et gastronomie. La politique a toujours été mêlée à la gastronomie. Le souper de Louis XIV était public et un acte de représentation politique où la qualité et la quantité des plats ingérés étaient recensés et magnifiés. La fuite de Varennes a peut-être échoué car Louis XVI s'était attardé pour dîner chez un de ses serviteurs. Le banquet a été l'expression de la République, d'abord en tant que mode d'opposition en 1847-1848 pendant la campagne des banquets, puis comme célébration de l'idéal républicain pendant la Troisième République, culminant avec le banquet des maires de France en 1900. Mais il est consternant de penser que le dîner célèbre du congrès de Vienne, agencé par Carême, qui avait été prêté pour l'occasion par le prince de Galles à Talleyrand, n'a laissé aucune trace écrite. Brillat Savarin nous parle de commerce et d'économie politique comme part intégrante de la gastronomie. Cela ne nous paraît pas évident au premier abord, mais Fernand Braudel a bien montré que le capitalisme moderne était né du commerce des épices et de la morue au XVe siècle. De même, le blocus continental a déterminé la démocratisation du sucre par la synthèse du sucre de betterave introduit sous l'égide de Benjamin Delessert. La gastronomie a pratiquement disparu de la politique de ce siècle, mais en 1914, Léon Daudet utilisait encore des métaphores gastronomiques. Il disait que Jaurès menait une éloquence touffue, dense comme un gruyère, dont chaque trou était une métaphore. Médecine et gastronomie. La gastronomie et la médecine ne font pas théoriquement bon ménage. Depuis les temps scolastiques, on appliquait le régime en fonction du tempérament sanguin, bilieux, colérique ou mélancolique. Régime et gastronomie semblent toujours contradictoires. Il faut cependant noter que les maladies gastro-entérologiques, je peux en témoigner, n'ont que fort peu d'origine alimentaire et que les maladies métaboliques ont une part génétique majeure. Il est amusant de considérer que l'hypercholestérolémie, mal du siècle, serait peut-être due à une adaptation à la disette. Quand les ressources alimentaires étaient insuffisantes, ceux qui sécrétaient du cholestérol, base de toutes nos principales hormones de l'organisme, étaient avantagés, ce qui n'est plus le cas dans nos sociétés d'abondance. De même, le diabète de type 2 serait lié à l'insuffisance de notre exercice physique, nos organismes n'ayant que peu évolué depuis l'époque des chasseurs-coureurs du Paléolithique. Cependant, les régimes médicaux se sont rapprochés de l'approche gastronomique assez récemment. Déjà en 1938, le docteur Louis Labbé déclarait à l'Académie des sciences « Les diététiciens nous rendent fous. Un jour ils disent blanc, un jour ils disent noir. » La situation a peu changé et il faut dire que les journaux de mode féminine n'ont rien arrangé. Néanmoins, la réhabilitation des volailles, des graisses d'oie et même du foie gras et du vin en quantité modérée en réponse au French paradoxe, c'est-à-dire à la moindre mortalité cardiovasculaire française et notamment du Sud-Ouest, est intéressante. De même, la notion de poisson gras a disparu depuis l'invention des oméga-3, et ce régime, assez intéressant par son diversité géographique, crétois inuit. Mais surtout, la notion de variété et de plaisir est désormais redevenue intéressante, même si ces items ne sont pas statistiquement quantifiables. Les grands chefs se sont associés à des médecins pour proposer une alliance de la médecine et de la gastronomie, ainsi Jean-Noël Fabiani et Bernard Paco dans la médecine de vos artères. Sociologie et gastronomie. Dans les familles, l'évolutivité de la gastronomie a une traduction à la fois architecturale et ménagère. Au fur et à mesure de l'évolution de la cuisine et de la gastronomie, le lieu où l'on élabore les aliments s'est rapproché de celui où on les mange, passant de la séparation des salles de réception et de l'office à la salle à manger et à la cuisine, puis à la cuisine conviviale où l'on fait la cuisine et où on mange. La cuisine de cachet est devenue exposée et exposition, même dans certains restaurants. De même, une double évolutivité s'est produite. Du chef de cuisine, de l'officier de bouche et d'une maison noble ou bourgeoise, on est passé de la cuisinière au maître de maison ou à la maîtresse de maison faisant eux-mêmes la cuisine. Aujourd'hui, la gastronomie est au même titre l'objet des restaurants et des grands chefs que de monsieur et madame tout le monde. Chacun n'en est pas moins méritant pour autant et pense et cherche à mieux manger, même si les réalisations et les objectifs restent peu comparables. La gastronomie a un rôle social très important. Du symposium de la Grèce antique au dîner en ville, la qualité des invités doit être adaptée à celle des plats, des vins et des arts de la table. C'est un formidable moyen de lier connaissances, de se faire des relations et des amis. De secondaire dans les dîners d'affaires, la gastronomie peut être un mode de convivialité invitant à se rassembler autour d'un plat, le lièvre à la royale, type du plat mythique, les champignons, les abats, et peut devenir un but en soi. On a beaucoup glosé sur les confréries gastronomiques et leur rapport avec les réseaux d'influence et le pouvoir, mais ce sont des lieux qui sont à la fois des conservatoires du goût, pour la composition du menu, en évitant plusieurs sauces ou réductions par exemple, l'association des plats et des vins, ce qui est une excellente définition de la gastronomie, mais aussi des lieux d'expérimentation où chacun se soumet au jugement et à la critique, certes savoureuse, mais souvent acérée de ses pairs. Gastronomie, les sources de notre connaissance. Les sources sur l'histoire de la gastronomie sont souvent écrites et parfois ethnographiques, parfois archéologiques. La gastronomie antique est peu connue car les textes ont souvent disparu. L'Égypte, Sumer, le monde gréco-romain nous ont laissé des recettes et parfois traités de cuisine. Puis plus rien ensuite jusqu'au viandier de Taïwan sous Charles V. Ensuite, les sources foisonnent, surtout depuis l'invention de l'imprimerie, mais l'interprétation et l'évolutivité des goûts, l'imprécision des techniques culinaires rendent toute interprétation souvent difficile. Malgré l'énorme quantité de livres de cuisine publiés de nos jours, l'interprétation reste toujours aussi difficile. La reproductivité d'une recette est très difficile, et des petits secrets ou trucs sont souvent omis, ou, si l'on veut être plus gentil, implicites, dans les nombreux livres des grands chefs. Les guides gastronomiques, depuis Grimaud de la Reynière jusqu'au guide Michelin, depuis 1900, que l'on pourrait définir par l'alliance de la gastronomie et de l'automobile, nous apprennent beaucoup sur les mœurs gastronomiques de leur temps. L'étude des menus anciens est également une source importante de l'appréciation de l'histoire de la gastronomie. Les menus anciens nous impressionnent par les quantités de plats mentionnés. Deux hypothèses sont envisageables. Soit les convives picoraient dans un ou plusieurs plats de chacun des services successifs, soit comme certains l'ont envisagé, j'aime assez cette interprétation, l'abondance des plats serait la réponse à la mémoire de la disette des crises frumentaires qui disparaissent au XVIIIe siècle, alors que l'abondance des plats et des services successifs ne disparaîtra qu'avec la guerre de 1914. Le plus célèbre menu de tous restant quand même, celui du siège de Paris servi chez voisin rue du Faubourg Saint-Honoré, où seront servis les animaux du jardin des plantes, dont l'éléphant, et dont la petite histoire nous dit que l'éléphant ayant été entièrement consommé, voisin aurait dit « Servez donc le cheval qui reste dans la glacière ». Les noms des plats ont beaucoup varié avec le temps. Au XVIIIe siècle, à l'exception de béchamel, inventeur de la béchamel, dont il écrivit la recette en vers, Dieu nous garde de continuer, les noms utilisés pour nommer les plats sont au départ ceux des employeurs des cuisiniers, tels la purée soubise, les pommes pompadour, la mirepoix. Le XIXe siècle poursuivra avec le tourneau de Rossini et la poularde albufera du nom du titre du maréchal Suchet, mais sera aussi plus événementiel avec le veau, qui était au départ un poulet maringot. Mais ni Vatel ni Carême n'ont laissé leur nom à des plats emblématiques. Il faudra attendre le XXe siècle pour voir des noms de chefs associés aux plats comme les écrevisses Fernand Point ou l'omelette de la mère Poulard. L'évolution des noms des plats la plus amusante et sans doute moderne, avec les mélanges invraisemblables de noms, de mots, d'ingrédients et d'utilisations à contre-courant de termes traditionnels au nom de la nouvelle cuisine. Les rillettes de saumon ou autres allégations du même ordre. La littérature nous offre une vision à la fois réaliste et imaginaire de l'univers gastronomique. Le repas gastronomique peut être la mise en scène de l'intrigue, comme dans L'Auberge rouge de Balzac, livre trop peu connu, ou une appréciation indispensable des voyages, comme Le voyage en Italie de Stendhal, qui parle d'une autre auberge rouge sur la route de Bologne à Florence, mais là où c'était le voyageur qui servait de substrat au repas. On peut ne que saliver devant la description du repas de noces d'Emma Bovary ou le repas de Noël des trois messes basses d'Alphonse Daudet. Parfois, le ton est polémique, comme Baudelaire quand il parle de la cuisine belge. L'alliance de la littérature et de la gastronomie sera pérennisée par le premier déjeuner Goncourt en 1905, organisé par Léon Daudet. Dans les évolutions contemporaines de la littérature, le roman policier et la bande dessinée sont également des auteurs importants de l'évolution gastronomique. Simenon est le chantre des plats roboratifs de la cuisine bourgeoise dans la série des Maigret, et Franquin a inventé avec Gaston Lagaffe la cuisine d'épouvante. L'ethnographie nous donne aussi d'autres sources en recueillant les recettes dans les populations exotiques, mais aussi dans nos campagnes. C'est un moyen important d'apprécier la mémoire du goût et l'art de bien manger d'un monde simple et paysan en train de disparaître, mais cela permet parfois de remonter loin dans le temps. L'archéologie permet d'apprécier la gastronomie des civilisations disparues. La consommation en viande des populations paléolithiques de Pincevent, décrite par le roi Goran, les offrandes funéraires des Égyptiens et les cuisines intactes d'Herculanum et de Pompéi nous renseignent de façon exacte mais fragmentaire. Alors maintenant, après avoir vu cette vaste concours de l'ensemble de la gastronomie, que peut-on attendre de l'histoire de la gastronomie ? L'histoire de la gastronomie, c'est quand même une histoire universelle, à la fois dans le temps et dans l'espace. Toutes les régions du monde sont concernées, même si c'est de façon inégale. Les gastronomies françaises et chinoises sont unanimement reconnues, avec leurs variantes. Haute cuisine et cuisine de terroir en France, cuisine impériale ou régionale en Chine. D'autres gastronomies sont plus limitées, comme la gastronomie italienne ou espagnole en Europe, ou plus lointaines, comme la japonaise ou l'indienne. C'est aussi une histoire universelle dans le temps. La gastronomie commence avec l'homme, du moins avec l'invention du feu, et son corollaire, la cuisson des aliments au paléolithique. Depuis, chaque civilisation a défini ses critères du bien manger. Même si certaines époques sont plus fastes, notamment la Rome impériale, le XVIIIe siècle français et l'époque contemporaine ont placé le bien manger au rang des beaux-arts. L'histoire de la gastronomie est une histoire culturelle, comme l'a fort bien montré Jean-François Revel dans son Festin en parole, qui est un des plus beaux livres qui ait été écrit sur l'histoire de la gastronomie. La gastronomie s'apprend, se transmet et se transforme en fonction du contexte culturel d'une époque. On pourrait définir chaque époque par sa gastronomie. Pour rester aux époques récentes, la cuisine d'Escoffier des grands palaces au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle et la nouvelle cuisine des années 1970 en sont des éléments emblématiques. On est en effet passé de la cuisine noble du XVIIIe siècle. Le maréchal de Richelieu disait qu'on ne savait pas manger avant le règne de Louis XV, à la cuisine savante de Carême puis à celle des palaces. Un mélange subtil avec la cuisine paysanne et les traditions des terroirs a donné naissance à la cuisine bourgeoise, dont le nom remonte aux années 1750, en fait, par Menon, et les traditions des terroirs, et ceci a duré jusqu'à la révolution de la nouvelle cuisine. En effet, toute notre cuisine tend à évoluer, selon des modes contradictoires. D'une part, la sophistication et la complication croissante, et d'autre part, la simplification et le retour aux sources et aux goûts simples. La mondialisation apporte aussi une internationalisation de la cuisine, tant par les produits exotiques tels que le quinoa du Pérou, ou les épices exotiques telles que le poivre du Sichuan ou la citronnelle thaï, que par le mode de cuisson, à la vapeur asiatique notamment, ou le mode de préparation, comme les poissons crus à la japonaise dont les enseignes de sushi et de sashimi fleurissent actuellement. Mais cette mondialisation était déjà le fait de l'Antiquité et du Moyen-Âge, par le commerce des épices et des temps modernes par le café et le chocolat, à l'origine du premier café, le Procope. Parallèlement, en réaction à l'internationalisation, le retour aux cuisines de terroir s'affirme de plus en plus. L'histoire de la gastronomie, c'est aussi l'histoire d'un certain imaginaire de l'homme. Le bien manger peut être un idéal quasi impossible à obtenir, une quête permanente, un désir d'absolu, au maximum une quasi-religion avec ses rites. Les gastrolâtres de Rabelais en ont été la première description des temps modernes. L'imaginaire est une part intégrante de la gastronomie. On imagine ce qu'ont pu être les poissons farcis de carême ou les pâtés de Gouffier et d'Édouard Nignon. On imagine les cuisines antiques. On se voit dans un symposium grec, étymologiquement, boire ensemble, ou dans un souper chez Beauvilliers. On imagine enfin de nouveaux plats et de nouvelles alliances de goût et de saveur. Alexandre Dumas en est peut-être le meilleur exemple. Gastronome accompli, écrivant son dictionnaire de cuisine, il imagine un plat qui commence par les mots suivants. « Prenez un ou plusieurs pieds de jeunes éléphants, enlevez la peau, et après les avoir fait dégorger pendant 4 heures, etc. » L'histoire de la gastronomie, c'est aussi une histoire de la sensibilité et des mentalités. Certes, il existe une histoire événementielle de la gastronomie, comme la création du poulet maringot, ou le menu tout bœuf du général de Richelieu, assiégé dans une forteresse du Hanovre pendant la guerre de 7 ans, où il ne restait qu'un seul bœuf qu'il a accommodé, si j'ose dire, à toutes les sauces. Et une histoire quantitative qui se rapporte cependant plus qu'à l'histoire de l'alimentation qu'à celle de la gastronomie. Mais par exemple, l'évolution des quantités produites et des prix renseigne sur des produits comme les truffes en raréfaction constante ou le saumon, dont le statut a bien changé en fonction du temps. De produits courants dans certaines régions, on mentionnait que dans les contrats de travail qu'il ne fallait pas servir plus de 3 fois par semaine du saumon aux ouvriers bateliers de la Loire, est devenu rare et cher, puis avec l'aquaculture, banal et dévalorisé. L'histoire de la sensibilité est difficile à apprécier, mais elle recèle des aspects profonds et importants des sociétés au fil du temps. Le rôle du vin et de sa consommation en sont un bon reflet. Depuis la Grèce ancienne et l'Égypte, où les vins millésimés existaient déjà. Que de variations jusqu'aux modifications récentes de la modification et du goût du vin célébré à la fois par Louis Penaud pour le vin classique et l'œnologue américain Parker, en contradiction totale avec le précédent. Parallèlement, le vin est passé d'un produit de luxe, ce qui n'a jamais été le cas de la bière, à un produit sain, naturellement non contaminé par les bactéries pathogènes, protégeant des bactéries et des épidémies propagées par l'eau insalubre, à un produit diabolisé par la médecine, source de pathologies addictives, de dépendances et de maladies en partie responsables du trou de la sécurité sociale, jusqu'à être réhabilité ensuite comme un bon aliment, retrouvant ainsi l'aphorisme de Louis Pasteur, prévenant désormais les maladies cardiovasculaires et même la maladie d'Alzheimer. Ainsi, les modes de consommation du pain et des viandes ont subi des variations comparables. Au XVIIIe siècle, le pain devait être blanc pour les Parisiens, au risque de survenue d'émeutes, comme le suggérait le lieutenant de police Larrény de l'époque. Et le XXe siècle a réhabilité le pain de froment et les pains de misère d'autrefois, agrémentés de céréales entières, de farines non blutées comme le pain complet et même le pain bis. L'histoire de la gastronomie est aussi celle du goût. Mais là, le problème est quasi insurmontable. On ne peut que se contenter des descriptions des plats, des produits, des menus ou de leur appréciation par la littérature ou la lecture des guides gastronomiques. Mais comme le goût relève d'une éducation personnelle, individuelle, non ou peu reproductible d'un sujet à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une société à l'autre, d'une classe sociale à l'autre et d'une époque à l'autre, posez-vous la question, quel goût avez-vous transmis à vos enfants ? Là est peut-être l'obstacle le plus important à établir une histoire objective de la gastronomie. Le goût et mémoire des plats, de certains accords des mets et des vins qui peut définir une certaine gastronomie classique, mais aussi mémoire de l'instant, de la qualité et de la conversation des convives. La gastronomie n'est pas un plaisir solitaire. Certains gastronomes ont d'ailleurs, contrairement à Brillat Savarin, proposé de n'accorder une action qu'à la table exclusivement. Ainsi, Apicius proposait déjà, pour ne pas mélanger les plaisirs, de voiler les seins des serveuses, au tempora, au mores. L'histoire du goût est donc forcément imparfaite. On ne pourra pas retrouver le goût du foie gras romain, foie gras d'oie gavé aux figues, ni même celui du pâté de foie gras d'Alsace apporté à Versailles par le cardinal de Rohan sous Louis XV. Le goût varie aussi entre la mémoire des mets de l'enfance, d'un certain âge d'or, l'évocation des plats d'une époque passée et l'expérimentation, les modes gastronomiques d'une époque. Cette dualité entre mémoire et goût est de toutes les époques. Mais l'histoire du goût est une histoire qui fait une belle part à l'imaginaire. Un plat gastronomique est souvent ce qu'on s'imagine qu'il doit être ou ce qu'il devrait être. Ainsi en est-il du lièvre à la royale, plat certes récent, mais qui peut être l'objet de querelles homériques entre les tenants du lièvre servi en roulade avec du foie gras entier et les tenants de la recette du lièvre du sénateur compoté du sénateur Couteau. La part de l'imaginaire dans l'histoire de la gastronomie explique les multiples facettes des recueils publiés, fonction de l'histoire de la sensibilité et de l'imaginaire de l'auteur. Il en est même des tentatives de recréation des recettes anciennes. L'histoire de la gastronomie est donc un domaine multiple, varié, protéiforme, où se mélangent l'histoire universelle, événementielle ou quantitative, l'histoire de la sensibilité des civilisations et des cultures, ainsi que l'histoire du goût. Certes, l'histoire de l'alimentation et celle des recettes sont une part fondamentale de l'histoire de la gastronomie, mais celle-ci peut aussi n'être que culturelle et imaginaire. Il est clair que l'on peut écrire des histoires de la gastronomie parcellaires, limité à un plat, à un produit, à une technique culinaire, à un terroir, à un pays, à une époque ou à des gastronomes. Mais écrire l'histoire de la gastronomie est une histoire et une entreprise plus vaste et plus difficile. C'est une part intégrante et fondamentale de l'homme. La gastronomie est une part de l'évolution et de l'histoire de l'humanité. Écrire l'histoire de la gastronomie est donc difficile, mais ô combien passionnant et digne d'intérêt. Mais qui restera probablement toujours imparfaite. L'histoire de la gastronomie, c'est l'histoire du goût, si difficile à établir, mais aussi l'histoire de l'homme et de l'humanité. C'est donc une histoire humaniste qu'il nous faut écrire. On pourrait dire que la gastronomie est donc, comme le rire, le propre de l'homme. Écrivons donc. Je vous remercie.
C'était Jean Vitto, docteur en médecine. Peut-on écrire l'histoire de la gastronomie ? Le thème de cette communication que vous avez pu entendre à l'instant, communication prononcée le lundi 4 juillet 2005 dans le cadre des travaux annuels de l'Académie des sciences morales et politiques en séance publique. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de la transcription de cette communication sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques dont voici l'adresse www.asmp.fr.